je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, pis somme, mor mir a plätzele kommt schon wieder wie jede Woche am Mittwoch und am Sonntagmittag. Alors vous avez compris mon dialecte, les grandes oreilles? Je vais vous le traduire. Le bonjour du bon matin. Fais-moi une place est à l'antenne le mercredi et le dimanche comme d'hab, avec pléthore d'invités qui se racontent, qu'on découvre avec un plaisir renouvelé. Et aujourd'hui, j'ai invité un comédien, un chansonnier, un cabaretiste, un théâtreux qui vit en Allemagne depuis de nombreuses années, parle parfaitement la langue de Goethe, er spricht fließisch Deutsch. Guten Morgen, invité surprise, tu peux te présenter, Überraschung Gast, ist vraiment un multitalent. Guten Tag, Etienne, Etienne, tiens, ça me rappelle une chanson, Etienne, Etienne.
Voilà, Étienne, et mon nom de famille, c'est Étienne Gillick.
Gillick, ouais.
Gillick, un palindrome, G-I-2-L-I-G.
Qu'on c'est connu en Alsace, il y avait même une dame politique qui s'appelait Gillick, je
c'est
crois.
C'est ça, mais les Français disent plutôt Gillick.
Gillick.
Mais j'insiste plutôt qu'on dise Gillick, comme ça le palindrome est aussi acoustique. Alors, palindrome, ça veut dire un mot qu'on peut lire dans les deux sens, comme Laval, ou alors en allemand, il y a un mot célèbre... Lagerregal,
Lagerregal,
ou alors Otto, ou Anna, des mots comme ça, des mots tout simples.
Waouh, aujourd'hui j'ai invité un intello, hein, faut que je fasse attention. Alors, dis-moi, tu es alsacien de Strasbourg, je crois que tu as vécu dans le quartier des musiciens, et c'est peut-être pour ça que tu as fait une si belle carrière musicienne, de musicologique.
C'est vrai que j'avais jamais fait l'association. Je suis né en fait à la Clinique Adassa, à deux pas d'ici.
Ah ben moi aussi.
Et puis... Mais j'ai grandi dans le quartier des musiciens, à l'angle de la rue Beethoven.
Ah bah oui, Beethoven, je connais bien ce quartier. Il y a un grand marché tous les samedis ici, qui est un magnifique marché où je vais de temps en temps avec ma petite corbeille en osier, tu vois. Alors, dis-moi, tu as fait tes études à Strasbourg aussi, tu étais bon élève ou plutôt un rêveur?
J'ai fait une fois une statistique, j'étais une fois bon en maths, une fois bon en français. Mais là où j'ai toujours été bon, c'était dans les arts. C'est là où j'ai toujours reçu de très bonnes notes. Et depuis le début.
Les arts, ça veut dire quoi le chant
Le dessin, la musique. Je me souviens, je m'étais amusé à passer le certificat d'études qui n'était pas obligatoire, puisqu'on préparait plutôt le BEPC.
Et donc,
j'avais préparé mon cahier de poésie avec des dessins. Et je me souviens que j'avais eu la meilleure note parce qu'on a dit, écoutez, on ne peut pas me donner une meilleure note, mais vous la méritez.
Ah ouais, tellement c'était beau.
Ouais. Oui, moi c'était normal, mais pour les examinateurs, c'était beau.
Et les poésies venaient de toi? C'est toi qui écrivais les poésies?
Non, je les avais recopiées.
Ah, d'accord.
J'avais fait l'image à la poésie.
Ah oui. Hein? Alors, dis-moi, tu as fait le conservatoire, oui. Musikschule?
Oui, c'est ça. J'ai fait le conservatoire de musique de Strasbourg, qui s'appelait à l'école Conservatoire de musique de Strasbourg, puisque c'était une entreprise municipale, alors que maintenant, c'est devenu le conservatoire régional de Strasbourg.
Régional, ouais. Et là-bas, donc, tu es devenu intelligent comme garçon?
Non, mais j'ai découvert la musique, j'ai appris la musique. Le solfège m'avait absolument fasciné. C'est pour ça que je suis allé au bout jusqu'à l'examen final. Et nous étions à l'époque 5 musiciens, je dirais un peu, je ne veux pas dire un peu fou, mais un peu normal, où on s'est dit, non, on veut encore continuer à apprendre, alors qu'on avait l'examen final. Et nous sommes allés voir, nous 5, le directeur du conservatoire, qui s'appelait Louis Martin, et on a dit, on veut continuer à apprendre. Il disait, mais enfin, c'est pas possible. Mais non, on insiste. Et dans ce cas, elle a dit, ben alors je vais créer une classe pour vous 5.
C'est pas vrai, ça existe,
et ça? Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'était encore possible à l'époque, certainement. Et à un moment donné, il était malade, il ne pouvait plus assumer la direction du conservatoire de musique. Et il a dit, mais ce cours-là a lieu dans mon appartement.
Oh, génial.
Avec café, petit gâteau, ça durait des heures. C'était, je crois qu'on se sentait vraiment au paradis. Je me souviens qu'il y avait aussi, je crois qu'il s'appelait Jean-Pierre, il faisait de la contrebasse. Il était après contrebassiste à l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Et on était encore trois autres, il y avait un trompettiste. On se sentait bien avec lui. Il savait parler, il savait nous...
Vous intéresser.
Nous emmener au 7e ciel.
Ouah, c'est beau ce que tu dis. Alors tu as étudié un instrument, le violoncelle.
Oui.
Et encore aujourd'hui, tu joues avec cet instrument dans...
Oui, alors je joue du violoncelle dans mon spectacle de cabaret qui s'appelle Die Französischstunde. Alors, la leçon de français, c'est le spectacle dans lequel les Allemands apprennent la langue française en une heure avec moi. Hein.
En une heure, c'est pas possible. Oh, si. Si, c'est vrai. Alors, parle-moi un petit peu de ce violoncelle. C'est comme une contrebasse, seulement le violoncelle, tu es assis, je crois. Tandis que l'autre instrument, tu es debout. C'est ça ou pas?
C'est ça. C'est le seul musicien à corps, si je puis dire, on est obligé d'être assis. Quoique je me suis déjà arrangé dans un spectacle que j'avais fait à Grenoble, à la Comédie des Alpes, qui est le spectacle qui s'appelait Marassade. Le titre complet, c'est La persécution de Jean-Paul Marat, présenté par l'équipe de théâtre de l'office de, de Charenton, sous la direction du marquis de Sade. Voilà.
C'est un truc à rallonge.
Et là, je m'étais souvenu, le décorateur nous avait fabriqué des tabourets. Et je dis, tu peux me faire un tabouret plus haut parce que moi, je ne peux pas jouer si c'est si bas. Il me dit, mais t'as besoin d'un tabouret, tu ne peux pas jouer debout. Et puis je dis, mais t'es malade, non? Et deux jours après, je dis, regarde, je sais jouer debout.
Waouh, génial. Alors, par rapport à un philharmonique ou un orchestre, on fait la différence entre le violoncelle et la contrebasse? Les notes sont différentes, la musique est différente?
Alors, la contrebasse est à peu près une octave plus bas que le violoncelle, c'est pour ça qu'elle est plus grande. Hein.
Ouais.
Il existe aussi encore une super contrebasse qu'on peut voir au musée du conservatoire à Paris, à la Villette.
Ouais.
Donc, elle avait pratiquement des pédales, parce que c'est tellement grand que le musicien ne peut plus jouer lui-même.
Tu te mettais sur un tabouret, alors, pour jouer à cet instrument?
Oui, ce serait une possibilité, oui. Mais alors, la main doit faire vraiment
des allers-retours.
Oui. Et c'est peut-être dans les mouvements rapides impossibles.
D'accord.
Enfin, quand c'est impossible, n'est pas français, comme disait Guy Lux. Hein,
Et les cordes sont plus épaisses?
Oui, bien sûr. Plus le son est grave, plus les cordes sont épaisses. C'est comme un orgue. Les tuyaux aigus sont tout fins, tout petits. Et les tuyaux graves sont... D'ailleurs, en parlant des tuyaux graves, je pourrais parler de l'église Saint-Maurice, qui a, avec l'église Saint-Paul, construite donc par les Prussiens, l'église Saint-Maurice construite pour les catholiques de l'armée prussienne et l'église Saint-Paul pour les protestants de l'armée prussienne. Et ils ont les notes les plus graves de Strasbourg.
Ah bon, ça je savais
pas. Et alors tu peux savoir que... Notamment la toccata de Léon Boelmann, c'est... C'est impressionnant. Et en fait, j'ai grandi dans cette église en entendant ces notes-là. Et quand on a entendu ces notes-là... On sait ce que c'est qu'un orgue.
Ah ouais, ouais.
Les autres orgues, c'est un peu des jouets.
Des orgues, il y en a plein en Alsace quand même, dans toutes les...
Oui, mais les notes si graves,
les
c'est
notes
ça.
Si graves.
Et c'est pour ça que les Parisiens sont jaloux de nos deux églises.
Ils peuvent l'être, c'est bien fait d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est vrai que ce que je voulais te demander, parce que là tu parles d'orchestre et ainsi de suite, je sais aussi que tu as travaillé avec l'éminent Alain Lombard, qui a une carrière internationale exceptionnelle, qui était donc un des grands chef à Strasbourg dans les années 75, par là, je crois
74. À partir de 74.
D'accord. Hein, c'est bien, moi, j'étais pas né. Hein. Pardon.
comme l'escalope, c'est ça?
Pardon. Je t'en prie.
Oui, et...
Alors, parle-moi de Lombard. C'était quand même un grand monsieur. Hein. Moi, je l'ai connu, Lombard, quand je travaillais. Quand je allais des fois voir ses spectacles, écouter le filard. C'est un grand monsieur. Quoi.
Alors, moi, je communiquais bien avec lui. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient un peu des problèmes parce qu'il y a un style un petit peu direct.
Ah ouais.
Et il était très intelligent. Pour moi, c'était quelqu'un de très agréable parce qu'il ne disait pas quelque chose pour dire quelque chose. Il disait quelque chose parce qu'il y avait une réflexion intellectuelle derrière. Et donc, moi, j'admire ces gens-là. Moi, je ne dis pas ceux qui font des coudes pour faire quelque chose. Ça. Non, je préfère...
Il est resté longtemps à Strasbourg, hein, comme...
Alors, ça je ne sais pas parce que... Mon contrat n'avait pas été prolongé, mais c'était pas lui qui avait...
Il t'a viré.
Non, pas lui. C'était le directeur administratif qui l'avait fait à l'époque, d'ailleurs derrière son dos. Donc après, moi, ça m'a permis de quitter Strasbourg. Et donc, c'est là où j'ai commencé à travailler d'abord à Fribourg en Breisgau.
C'est une ville magnifique, Fribourg. Fribourg et la cathédrale, qui est sublime.
Oui.
Bon, la nôtre est plus belle à Strasbourg, mais là-bas, elle est pas mal non plus.
Je dirais, elle est autrement belle.
C'est beau, comme tu dis.
Je préfère dire ça, parce que c'est difficile de dire qu'il y a quelque chose qui est plus beau qu'autre chose.
Ouais, elle est autrement belle.
Je me souviens d'ailleurs avoir vu un... parce qu'on avait fait à Munich, on avait fait Hamlet... On dit Hamlet ou Hamlet
comment en français ? Hamlet.
Hamlet, on dit Hamlet.
Hein, on dit aussi Hamlet. Hein.
Ah, oui, c'est ça. et j'avais vu un jeune comédien, vraiment la vingtaine, qui faisait Hamlet. Et je suis sûr qu'il ne comprenait pas tout ce qu'il disait. Et j'avais vu un autre Hamlet, à 4 semaines d'intervalle, qui avait 40 ans, qui lui savait exactement tout ce qu'il disait. Mais chacun des deux avait quelque chose de particulier. Et je ne pouvais pas dire si je préférais plutôt le comédien de 20 ans ou le comédien de 40 ans.
Ah ouais.
Parce qu'il y avait aussi cette virginité dans celui de 20 ans. Et il y avait autre chose qui passait. Alors que celui de 40 ans, toutes les syllabes, il savait ce qu'il disait. Et les sonorités des mots étaient là. Et ça, c'était quand même formidable.
J'entends quand tu me parles, là, tu as vraiment une voix de travail. Tu connais les micros, tu connais la radio, tu connais la télé, tu as fait des films, t'es comédien, tu as fait plein de choses. T'es un multifacette, quoi. Hein?
Oui, tu dis la radio, mais c'est en fait la première fois que je fais une interview à la radio française. D'habitude, je le fais toujours en Allemagne, en allemand. Mais j'étais déjà venu une fois au micro, et quand j'avais 16 ans, parce que c'était mon prof de musique au lycée Fustel de Coulanges qui avait organisé une émission à la radio. Ouais. C'était savoir qu'est-ce qui était mieux d'avoir, pour des élèves, d'avoir un professeur pour toutes les matières, mais qui ne connaissait pas très bien la musique, ou d'avoir chacun une spécialité qui, lui, ne connaissait pas très bien les élèves. Et je me souviens que là, j'avais été dans les studios, ça devait être de l'ORTF à l'époque encore. Donc c'était...
T'es pas si vieux que ça, quand même. L'ORTF, c'était déjà il y a très très longtemps.
Bah, si, écoute, finalement, je titre quand même 71 ans maintenant.
C'est pas vrai. On dirait pas, on dirait un jeune homme à côté de moi, là.
Oui, mais...
C'est vrai.
Écoute, oui, peut-être ma voix, elle est assez jeune, c'est vrai.
Oui, on entend, t'as un joli timbre de voix, ouais, on peut le dire. Et dis-moi, on va écouter un peu de musique, si tu veux, parce qu'on va se reposer un peu les oreilles, hein, juste un tout petit peu, parce qu'on bavarde, on bavarde. Vas-y, mon cher Thomas, mets-nous un petit peu de musique.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei, und es dröhnt in meinen Ohren, und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt, der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Qu'est-ce que c'est beau, hein, Frédéric May.
Eh oui,
j'adore. Il n'y a pas de frontières au-dessus des nuages.
Eh oui.
Hein, c'est quand même une belle leçon, ça, aujourd'hui, de dire qu'il n'y a pas de frontières. Qu'on devrait...
Si, stop, un instant. Si, il y a une frontière au-dessus des nuages. Parce que quand il y avait le nuage nucléaire de Tchernobyl,
il
s'arrêtait juste à la frontière du Rhin. Parce que du côté germanique, on était inquiets. Après le Rhin, il n'y en avait plus.
Il y avait une barrière, certainement, de nuages, tu vois. Alors, parle-moi un peu de ta voix de travail. Tu imites les enfants. Mais fais-moi un petit peu quelques petites voix, là.
Je vais peut-être faire alors Jeanne d'Arc au bûcher de Honegger.
Si tu veux.
Quand le frère Dominique, et puis le dialogue entre frère Dominique et Jeanne d'Arc. Jeanne, qui m'appelle ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Qu'est-ce qu'il a dit, Jeanne ?
Ne me reconnais-tu pas ?
Je reconnais la voix de Dominique, la robe blanche et le manteau noir.
La robe blanche que mes frères de Paris et de Rouen ont souillée d'une telle souillure que ni la soude ni l'herbe à foulon ne suffiront à l'effacer.
Frère Dominique, etc.
C'est joli comme tout, ouais.
Parce que j'apprends souvent les deux rôles, tu comprends ?
C'est bien plus sûr. Pratique. Tu fais des voix, t'as fait des voix pour des films, t'as fait du doublage.
Oui, j'ai fait du doublage pour les versions en langue allemande de films...
Français.
Français et américain. Alors, français, j'ai fait la voix de Alain Chabat.
Ah ouais ?
Alors, on m'a demandé de
faire
ça.
Dans quoi ? Dans Gazon maudit ? Non ?
Non, c'était... La science des rêves.
Ah oui, ok.
La science des rêves. Ouais. Parce que dans ce film, il parlait français et anglais.
Ouais.
Et donc, moi, je devais passer, parler français et allemand.
Ah ouais.
Hein? Et aussi dans le film de Jackie Chan, Rush Hour 3,
mm-hmm.
là aussi, il y avait, le dans le casino, le groupier qui parlait aussi bien français qu'allemand. Et donc, je devais parler ces deux langues. Et on me demande toujours pour faire ce genre de choses. Une fois, Denis Podalydès, qui parlait aussi italien et français,
ouais, ouais.
dans le film Cao Calme. Et bon, c'est peut-être pas toujours des films qui sont très connus, mais c'est, on me demande quand ma voix convient aussi pour ce rôle-là.
Bah là, quand même, t'as une voix, je sens que t'as une voix de travail derrière le micro. D'ailleurs, Thomas s'en rend compte aussi, hein, on reçoit plein de gens ici, t'as vraiment une voix qui interpelle les gens quand même. Alors, dis-moi, on parlait juste des nuages qui n'avaient pas de frontières, tu as un jour posé tes valises, pas à Freiburg, mais à München. Warum? Pourquoi tu es allé vers München?
Alors, il y a souvent des c'est le hasard du temps. Il y a quelqu'un qui me dit, écoute, tu devrais écrire à l'Opéra de Munich.
C'est pas vrai, ah ouais?
Alors, je dis, wow. Ben, moi, tu me dis d'écrire à l'Opéra de Munich. Moi, je suis peut-être alsacien, discipliné, donc je le fais. Et puis, je l'ai fait. Trois semaines après, j'avais le contrat.
C'est pas vrai, ouais.
Alors, mais c'était en 1980. Il faut pas l'oublier. Et les Français n'aimaient pas encore trop aller en Allemagne. Il y avait encore faut pas l'oublier. Et je crois que le directeur de l'Opéra de Munich était content qu'un Français se manifeste. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle il a dit je l'engage. Mais ce directeur-là, je me suis très très bien entendu. Vraiment jusqu'à la fin de ses jours. Et il avait aidé à réouvrir un théâtre qui était fermé depuis 25 ans, le Théâtre du Prince Régent, et de façon tout à fait naturelle, sans chercher à lui renvoyer l'ascenseur. Je l'avais aidé pour le faire, et maintenant je suis encore heureux parce que j'ai encore les pieds dans ce théâtre.
C'est bien, et puis en fait, tu t'es créé un personnage, parce que là, je vais te décrire, tu as un béret basque, tu as un gilet un peu à la façon Roger Siffert, Schlipfle, et puis c'est ton personnage, ça, pour le cabaret?
Oui, alors...
Et des lunettes rondes, hein, un peu d'intello comme ça, faut dire.
Oui, mais je les aime bien, ces lunettes, parce qu'avec ces lunettes, je vois tout, et surtout que l'œil est au milieu du verre, ce qui est toujours un petit peu difficile.
Ah, c'est marrant, ça!
Parce que...
J'ai jamais pensé à ça quand je mets mes lunettes.
Parce que la distance entre les deux pupilles est relativement serrée, et ça correspond à peu près à 3% de la population. Donc oui, c'est ça.
Je regarde avec mes lunettes sur le nez, la puce est au milieu.
Ouais, c'est au milieu.
Ah, c'est marrant. J'ai jamais pensé à ça, dis donc.
Ouais. Bon, ben voilà. Mais non, ça tu peux pas. Ça, on ne pense pas à ça.
Ouais.
On voit ça.
On voit, oui, on le voit. Ah, c'est intéressant.
La différence entre ça. Ouais. Ah, tu veux dire de vous que je suis intellectuel, parce que il y a la différence entre voir et entendre.
Et alors, comment ça se passe le cabaret? T'es sur scène? T'as des fois le trac quand tu joues devant les gens? Parce que tu joues en allemand, hein?
Oui, c'est ça. Alors, désolé de te dire, mais... je suis peut-être un peu nerveux, mais je n'ai pas vraiment le trac. Et quand j'ai fait la première représentation, j'avais invité des collègues, et mes collègues m'ont dit, mais dis donc, tu dis que c'est la première, mais j'ai l'impression que tu as déjà fait 300 représentations de ce truc-là.
Un garçon calme.
Oui, je crois que... En fait, il faut aussi que la voix soit calme. Il faut... Alors...
Et comment tu fais pour que la voix... Tu manges du miel? Qu'est-ce que tu fais pour la dompter, cette voix? Comment tu fais?
Alors, quand j'étais au conservatoire, j'avais un professeur de violoncelle que ce que disaient les autres, il n'était pas bon, c'était pas un bon professeur. Moi, j'avais pas compris, mais par contre, je savais observer sa main et copier sa main. Et là, j'ai observé comment Placido Domingo chante.
Ah ouais?
Et alors, il y avait notamment les trois chanteurs, c'était Pavarotti, Carreras et Domingo. D'abord, Pavarotti qui chante « Oh, sole mio !» Et l'autre qui dit « Je vais être mieux. Oh, sole mio !» Et après, Domingo « Oh, sole mio !» Tout à fait décontracté. Et je dis « Là, je
ça, c'est juste, toi.
Ça, je veux faire.
Ça, t'as envie de faire, ouais.
Hein? Et je crois qu'il faut savoir un peu copier ce que font les collègues.
Ouais, ouais.
Surtout quand on trouve quelqu'un qui arrive à faire quelque chose de beau, quelque chose de décontracté, où l'art passe, mais pas seulement par la voix, c'est tout le corps. C'est tout le corps. Ce sont les ongles des doigts de pied où ça commence.
Je te pose une petite question, parce que tu m'avais parlé quand on s'est rencontré que tu chantais en allemand. La Marseillaise, je t'ai souvent, c'est vrai?
Oui, oui.
Mais Vicky, comment ça se passe? Tu peux nous faire un petit exprès?
Oui, oui. Alors, je chante aussi bien la Marseillaise en allemand, ouais, que l'hymne allemand en français.
Ah, c'est marrant. Mais fais-moi un petit coup de Marseillaise.
Auf den Kinder des großen Vaterlands, der Tag des Ruhms, ja, der ist da.
Tu vois, ça marche.
C'est génial. Ah, c'est génial. Bah, dis donc, si Gainsbourg, il entend ça dans les étoiles, là-haut, ça va lui faire plaisir.
Et, ouais, et alors, en allemand, c'est... Unité, justice et liberté pour la belle patrie allemande. Tu vois que ça,
ouais,
marche.
C'est beau.
Et
ouais,
j'ai un rêve, tu vois. J'ai un rêve, comme disait I Am a Dream, que jusqu'à la fin de ce siècle, tous les Français et tous les Allemands chantent la Marseillaise et l'hymne allemand, que ce soit en français ou en allemand. Peu importe, et ça, ce serait super. Parce qu'on est déjà sur une très bonne voie par rapport au passé, ce qui s'est passé, etc. Et j'en profite en même temps pour parler de mes pantalons.
Ah oui, tu as un pantalon un peu de gagues, là.
Non, c'est quoi? Alors, en allemand, on appelle ça un Stresemann. Parce que c'est Gustav Stresemann, le chancelier du Reich, qui avait l'habitude de porter ce pantalon. Au bureau, il avait simplement une veste, et après, il mettait le frac pour les réceptions. Et c'est pour ça que ces pantalons, on l'appelle Stresemann, parce que c'était ce qu'il portait. Et pourquoi je porte un Stresemann? C'est parce que Gustav Stresemann, avec son collègue de fonction Aristide Briand, en 1926, ils ont reçu ensemble le prix Nobel de la paix, parce, ouais, qu'ils ont dit on doit régler les problèmes entre la France et l'Allemagne avec des mots et pas avec des canons, avant qu'un fou autrichien migrant est venu prendre le pouvoir pendant 12 ans en Allemagne. Alors, pour moi, ce pantalon, ouais, c'est un pantalon de paix. Je transporte la paix. En plus, ici, on est près de l'avenue de la paix.
Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est vrai.
Et je crois que c'est ce que je dis aussi dans mon cabaret. J'essaie toujours de trouver des mots pour... Et certaines journalistes disent « Je suis le meilleur ambassadeur de l'entente entre les peuples ». Et quand un journaliste écrit ça, je trouve que c'est vrai, je le mérite.
C'est bien parce que tu as aussi créé une association avec les Alsaciens. Tu as créé un truc en Bavière, tu as rapproché les Alsaciens. Raconte-moi cette petite anecdote-là, une belle anecdote.
Alors, justement, j'ai créé l'association des Alsaciens de Bavière que j'ai appelée « Amitié Alsace-Bavière, Freundschaft Elsass-Bayern ». Donc, je voulais vraiment les deux langues dans les deux titres. Et surtout, c'était à l'époque où à Solingen, les maisons de demandeurs d'asile s'enflammaient un peu trop rapidement, hein, parce que pour des gens qui voulaient empêcher que les demandeurs d'asile s'installent en Allemagne. Et je m'étais dit que nous, en tant qu'Alsaciens, nous, on doit tendre la main pour dire c'est l'amitié entre les peuples. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, qui c'est qui peut le faire? Évidemment les autres, mais plus que nous, Alsaciens, tendre la main vers la France et tendre la main vers l'Allemagne.
Ouais, c'est magnifique ce que tu dis, c'est touchant. Tu reçois la Gaine Sud quand tu dis ça. Alors dis-moi, Étienne, il y a beaucoup d'Alsaco en Bavière? T'en as beaucoup qui résident en Allemagne?
Oui, j'avais compté 8000 à peu près.
C'est beaucoup quand même, oui. C'est énorme. Ils sont tous dans l'association?
Non, ils ne sont pas tous dans l'association. Je les avais déjà un petit peu répertoriés, mais ils sont un petit peu répartis partout. D'ailleurs, tu connais aussi très bien le Elsass Becker.
Oh, il était là la semaine dernière, il était là devant à ta place à ce micro. Quel homme extraordinaire.
Ah, je crois qu'il a
le
faire,
cœur sur la main, et je crois que c'est lui qui fait vivre l'Alsace en Bavière.
Ah oui, hein, définitivement. Oui.
C'est quelqu'un d'extraordinaire avec ses bretzels, avec tout. D'ailleurs, j'espère que l'année prochaine, en 2025, il aura la bretzel d'or, parce qu'il la mérite. Je vais vraiment faire ce qu'il faut pour qu'il ait cette bretzel d'or, parce que c'est un homme exceptionnel. Oui. Ce qui fait, tu le connais bien, je crois.
Oui, bien sûr, notamment quand il fait quand il organise ses sorties avec les vélos. Il avait même fait une bretzel en forme de vélo.
Non, mais il est extraordinaire.
Et je trouve que c'est aussi formidable qu'un boulanger alsacien ait épousé une boulangère bavaroise. Là aussi, on est en plein dans le rapprochement entre les peuples. Et ça me fait chaud au cœur.
Ouais, c'est bien. Écoute, on va écouter une petite musiquette aussi qui va te plaire. Tu m'as demandé cette musique, une musique un peu classique. Vas-y, mon cher ami Thomas. Les harmonies sont belles, hein, c'est grandiose et riche, tu trouves aussi. C'est pour ça que tu m'as demandé d'écouter ça.
Oui, parce que surtout que ça c'était l'ouverture de des maîtres chanteurs de Richard Wagner. Et c'est mélodieux, c'est agréable, c'est je me sens bien transporté par cette musique. Mais j'en profite pour dire que j'étais donc ben j'ai un chat dans la gorge. Voilà, j'ai un chat dans la gorge. Les Allemands disent « Ich habe einen Frosch im Hals ».
Ah, un Frosch, bei uns ist anders.
C'est un crapaud dans la gorge. Hein.
Ouais, c'est
j'étais
ça.
Une fois avec un chanteur d'opéra, il m'a dit « Ah, je ne serai jamais français. Hein. Je peux avoir un crapaud dans la gorge, là je peux encore chanter. Mais un chat dans la gorge, hein, la voix, c'est fini. »
Ça passe pas, ouais.
Bon, et à Bayreuth, pendant 20 ans, donc le festival Richard Wagner, j'ai fait les traductions, puisque le cahier, le programme a été toujours traduit en trois langues, en allemand, en anglais et en français. Et pendant 20 ans, j'ai fait ça. Et je dois dire aussi que j'ai fait mes études de traduction à l'Institut des langues et des traductions à Munich. Et ma prof pour les traductions, Gudrun Pendorf, c'est celle qui a traduit les 29 premiers bouquins en langue allemande de Astérix et Obélix.
Ah ouais, génial.
Alors au début, je ne m'étais pas rendu compte. Alors je me souviens notamment, après les examens, je vais en cours et j'étais le seul. Et puis elle me dit, « Ah, monsieur Guédic, je vous invite au café. » Et je dis, « Ah non, heure de traduction, on travaille. Hein. » Elle me dit, « Je dois traduire une page de Luc et Luc. On le fait ensemble ?»
Ah ouais.
On a passé 2 heures ensemble.
Génial. Oh,
c'était un peu comme avec Louis Martin quand on était à ses cours particuliers de solfège, là, dans son appartement.
Dans son appartement, ouais.
Je me dis, oh, quelle chance. C'est là qu'on se dit, il vaut mieux continuer à faire des choses que simplement se décontracter sur un fauteuil.
Étienne, je trouve que quand je t'entends parler, t'es vraiment heureux, je trouve. T'as la patate, t'as la pêche, t'as de l'énergie. Et t'es heureux en Bavière ?
Oui, je suis très heureux en Bavière et j'ai aussi la chance. En parlant d'heureux, il y a 2 ans, j'étais engagé à l'Opéra Royal de Madrid pour faire Jeanne d'Arc. Non, c'est pas Jeanne d'Arc, hein, j'ai fait le greffier au procès de Jeanne d'Arc. Et ma partenaire de scène qui faisait Jeanne d'Arc, c'était Marion Cotillard.
Non, c'est pas vrai. Elle est géniale, cette femme.
Elle est très pro. Disons, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pro. Parce que moi, avant le début d'un spectacle, moi, j'étais toujours sur scène pour dire bonjour aux collègues, ça va, tu t'es brossé les dents aujourd'hui, ça va, t'as allaité bébé, tu vois, je veux dire, des trucs banals. Et je m'ai rendu compte que le seul artiste qui faisait ça en dehors de moi, c'était elle.
C'était elle.
On était seulement elle et moi, alors qu'on entrait en scène seulement une demi-heure plus tard.
Ah ouais.
Tu vois, mais c'est une chouette collègue. Alors, Marion, c'est une chouette collègue. Vraiment. J'étais au paradis là-bas.
Dis-moi comment ça se passe pour 2025 pour toi. Tu as plein de projets, tu es connu, t'es connu comme le loup blanc en Bavière. Je sais que tout le monde te connaît.
Ah, écoute, c'est toi qui le dis.
Non, je le sais aussi.
Parce qu'en général, quand tu me dis que j'ai une belle voix, je dis, moi, je ne sais pas.
Mais si, je l'entends.
Moi, je la produis, moi, je ne m'entends pas. Ouais. Parce que je rêve quand même un jour, une fois, être sur scène et jouer un rôle et être en même temps assis dans la salle pour me regarder.
Ah, c'est incroyable ce que tu dis. Ça me rappelle un film de Woody Allen. Tu sais, quand quelqu'un sort de l'écran, tu te souviens? C'est
oui, c'est ça.
C'est génial.
J'arrive pas.
Bon. T'arrives pas. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu jusqu'à chez nous, Avenue de la Paix, là, parce qu'à la Paix, t'en as parlé, de la Paix franco-allemande. C'est très beau ce que t'as dit. Merci d'être venu. On va écouter un petit disque pour terminer. U2, tu connais, hein, tu vas voir, One, c'est super beau. On va terminer avec ça. À bientôt et merci beaucoup.
Et merci de m'avoir invité. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life. When it's one love.